Bonjour et merci d'être venus aussi nombreux pour la conférence ce soir, donc en partenariat entre la Société de philosophie de Bordeaux et la librairie Mola. J'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir aujourd'hui Thomas Benatouil, qui est donc maître de conférence à l'Université de Nancy et membre de l'Institut universitaire de France, et qui va venir aujourd'hui nous présenter son dernier ouvrage, donc « Les stoïciens ». Musonius, Épictète, Marc Aurèle, et donc toute une réflexion sur les usages contemporains du stoïcisme. Je lui laisse tout de suite la parole en le remerciant d'être venu présenter ses travaux.
Merci beaucoup aux collègues et amis bordelais pour leur invitation. Merci en particulier à Céline. Donc je ne vais pas présenter mon ouvrage au sens strict, mais je vais, développer une réflexion, à partir de mon ouvrage sur effectivement le problème de l'actualité, si elle existe, du stoïcisme impérial, dont sur lequel porte cet ouvrage qui est paru il y a un mois et demi. Alors, les historiens de la philosophie ont longtemps concentré leur intérêt sur le problème de l'orthodoxie du stoïcisme impérial et d'Épictète et de Marc Aurèle, les uns les tenant pour entièrement fidèles aux fondateurs du stoïcisme, les autres pour nettement influencés par Platon ou par le platonisme impérial. C'est tout le problème de l'évolution du stoïcisme qui naît au IIIe siècle avant Jésus-Christ, mais avec des auteurs comme Épictète et Marc Aurèle, on est, disons, 4 siècles plus tard. Est-ce que les thèses stoïciennes sont toujours les mêmes? Est-ce qu'il y a une évolution? C'est un problème, dont s'occupent beaucoup les historiens de la philosophie quand ils s'intéressent à ces auteurs du stoïcisme, aux derniers stoïciens. Ces problèmes historiques sont tout à fait intéressants et importants, mais ne doivent pas cacher le sens de l'activité philosophique de Musonius, Épictète ou Marc Aurèle, les derniers stoïciens. Enfin, je dis dernier, c'est un peu excessif, mais enfin, les derniers, connus. Ces auteurs ne cherchaient pas d'abord à proposer et défendre une version théoriquement satisfaisante de la doctrine stoïcienne, mais à offrir des moyens de mettre en pratique cette doctrine. Cette position a longtemps été comprise comme une réduction de la philosophie stoïcienne à son éthique. Mais il s'agit d'une erreur, selon moi. Musonius, Épictète et Marc Aurèle ne se désintéressent pas de la physique, qui inclut la théologie, ou de la logique stoïcienne, mais d'une approche purement théorique ou scolaire de ces disciplines et de l'éthique. On peut faire de l'éthique de manière théorique. Vous pouvez réfléchir à des problèmes, qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que la vertu ? Est-ce que c'est la même chose, etc. Vous pouvez faire de l'éthique d'un point de vue purement théorique. Ce que Épictète et Marc Aurèle font, ce n'est pas de se concentrer sur l'éthique, c'est de se concentrer sur la philosophie, sur la dimension pratique de la philosophie, que ce soit la dimension pratique de la physique, la dimension pratique de la logique ou la dimension pratique de l'éthique. Donc, ils s'intéressent à l'application de ces doctrines à notre conduite pour la guider et la perfectionner. L'idée qu'il existe une dimension pratique de la physique, de la logique et de l'éthique est déjà présente chez les premiers stoïciens. Donc, Épictète et Marc Aurèle n'inventent pas cette idée, mais ils demeurent originaux du fait de leur concentration sur cette dimension pratique du stoïcisme. Ils développent cette dimension pratique du stoïcisme beaucoup plus que les premiers stoïciens, parce qu'ils se concentrent sur elle. Alors, cette dimension pratique et pédagogique du stoïcisme d'Épictète ou Marc Aurèle explique indéniablement sa fortune dès l'Antiquité. Le meilleur témoignage, et l'un des premiers, est le commentaire que le néoplatonicien Simplicius, au VIe siècle après Jésus-Christ, a consacré au manuel d'Épictète. Donc cet auteur néoplatonicien a écrit un commentaire du manuel d'Épictète, comme il a écrit des commentaires des œuvres d'Aristote, des œuvres de Platon. Simplicius n'aborde pas l'enseignement d'Épictète comme des thèses relevant d'une école de pensée spécifique. Pour lui, ce n'est pas une présentation de la doctrine stoïcienne. Si c'était le cas, ça ne l'intéresserait pas de le commenter. Mais comme des préceptes, donc il aborde le manuel comme un recueil de préceptes qui peuvent rendre heureux, dit-il, ceux qui les suivent sans même qu'ils aient besoin de se voir offrir les récompenses de la vie après la mort. C'est comme ça qu'il présente le manuel en disant, bon, c'est vraiment utile parce que ça fournit des préceptes pour être heureux sans même recourir à l'invocation de la vie après la mort qui est finalement la vraie vie heureuse selon Simplicius. Mais Épictète n'invoque même pas ce genre d'argument eschatologique, dirions-nous, pour construire son éthique pratique. Et donc, pour cela, Simplicius trouve que c'est intéressant et il commente le manuel. Et donc, le stoïcisme, dans ce commentaire de Simplicius, est réduit, du fait de son orientation pratique, à une préparation destinée à l'âme rationnelle en tant qu'elle agit au moyen du corps. Le manuel, dit Simplicius, nous apprend à maîtriser nos passions et à nous tourner vers nous-mêmes, ce qui constitue des conditions indispensables aux études philosophiques proprement dites, c'est-à-dire à la lecture d'Aristote et de Platon, qui s'achèvent par leurs œuvres métaphysiques. Donc, vous voyez, là, le manuel d'Épictète est utilisé comme une sorte de propédeutique à la philosophie qui permet d'expliquer aux jeunes étudiants en philosophie la manière dont ils doivent se comporter s'ils veulent devenir philosophes. Mais le contenu de la vraie philosophie n'est absolument pas dans le manuel d'Épictète selon Simplicius. Ce n'est qu'une espèce de préparation. Pour, en gros, même pas pour purifier son âme, parce que selon Simplicius, Épictète ne va pas jusque-là, mais enfin, en gros, pour discipliner sa vie, maîtriser ses passions, afin d'être dans un état adéquat pour recevoir l'enseignement philosophique proprement dit. On trouve un usage similaire du manuel dans le christianisme. Je passe rapidement, mais on a conservé des adaptations chrétiennes du manuel d'Épictète datant de l'époque byzantine, où certains passages sont supprimés et où, par exemple, tous les noms des philosophes que cite Épictète, Socrate, Chrysippe, sont remplacés par des noms d'apôtres. On voit bien que les gens qui ont fait ces adaptations, quand il y a Socrate, ils mettent Paul à la place, des choses comme ça. Mais sinon, c'est quasiment exactement le même texte. Il y a des variations très, très minimes. Et puis parfois, il y a des commentaires, un peu comme chez Simplicius. À la Renaissance, dans le néo-stoïcisme chrétien, par exemple chez Guillaume du Ver, au XVIe siècle, les exercices du manuel deviennent une technique de purgation au service du christianisme, et d'ailleurs ils sont complétés, ces exercices du manuel sont complétés par des exercices de pénitence qui permettent la conversion à Dieu, et qui ne sont pas présents dans le manuel, dont Guillaume du Ver éprouve le besoin de rajouter certains exercices plus orienter correctement le stoïcisme dans une direction chrétienne. C'est également pour ces exercices que le stoïcisme impérial est invoqué par Descartes de manière allusive dans le discours de la méthode à propos de la fameuse troisième maxime de la morale par provision. Bon, vous connaissez ce texte plus que connu. Ma troisième maxime était de tâcher toujours plus tôt à me vaincre que la fortune et à changer mes désirs que l'ordre du monde, et généralement de m'accoutumer à croire qu'il n'y a rien qui soit entièrement en notre pouvoir que nos pensées. Bon, ce texte est clairement inspiré du manuel d'Épictète et peut-être de Sénèque. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'un peu plus loin, après avoir expliqué les bénéfices de cette attitude, Descartes fait allusion aux stoïciens. On sait que c'est assez rare que Descartes fasse allusion à des auteurs anciens ou antérieurs à lui. Et là, il le fait en disant « J'avoue qu'il est besoin d'un long exercice et d'une méditation souvent réitérée pour s'accoutumer à regarder de ce biais toutes les choses, et je crois que c'est principalement en ceci que consistait le secret de ces philosophes qui ont pu autrefois se soustraire de la fortune et, malgré les douleurs et la pauvreté, disputer de la félicité avec leur Dieu. » Là, c'est manifestement une allusion aux stoïciens. Cette remarque est d'autant plus significative que dans la première partie du discours de la méthode, Descartes a critiqué le stoïcisme pour l'incertitude de ses fondements et pour l'insensibilité et l'orgueil de son idéal éthique. La seconde critique, celle de l'insensibilité, est classique depuis l'Antiquité, et celle de l'orgueil est classique aussi depuis Augustin. Mais Il est d'autant plus significatif que Descartes invoque néanmoins l'efficacité des exercices stoïciens dans le discours. C'est également ce stoïcisme pratique qui sera au centre de la réflexion de Shaftesbury dans ses exercices. Je ne sais jamais comment on prononce. Oui, mais on dit Shaftesbury ou Shaftesbury. J'ai entendu des anglo-saxons dire Shaftesbury, donc j'ai toujours un doute sur. Je croyais que c'était moi qui prononçais à la française Shaftesbury, mais en fait, je ne suis pas sûr. Bon, je dirais Shaftesbury, et puis on saura un jour si c'est pas bien ou non prononcé. Alors, donc, dans les exercices de Shaftesbury, des notes privées écrites pour se préparer à la rédaction et à la publication d'autres ouvrages, on a aussi cette pratique, cette mise en pratique du stoïcisme appuyée sur les textes d'Épictète et de Marc Aurèle. Une pratique minutieuse de l'usage des représentations et des textes du stoïcisme impérial à laquelle Shaftesbury s'est livré environ de 1698 à 1707, je vais y revenir. Alors, peut-on prolonger cette tradition d'appropriation du stoïcisme impérial qui est développée sa dimension pratique aujourd'hui? La réponse paraît évidemment positive, tant le thème de la philosophie comme manière de vivre est à la mode depuis quelques années. Or, Épictète et Marc Aurèle constituent des cas exemplaires de cette conception de la philosophie comme manière de vivre. Ce n'est d'ailleurs pas du tout un hasard s'ils constituent, avec Plotin, les auteurs les plus étudiés par Pierre Hadot, qui a, par ailleurs, montré avec précision que la mise en pratique du discours philosophique dans un mode de vie est une dimension fondamentale de la philosophie dans l'Antiquité. Pourtant, au sein du retour en vogue actuel des philosophies antiques à cause de leur dimension pratique, on ne peut pas dire que les auteurs favoris de Pierre Hadot, Plotin, Épictète, Marc Aurèle, aient profité d'une faveur particulière. Bien au contraire. Est-ce un oubli à corriger? Est-ce au contraire significatif philosophiquement? Pour le savoir, je propose d'examiner d'un peu plus près cette mode et la conception de la philosophie qu'elle promeut. Donc, cette mode de la philosophie comme manière de vivre, je la prends au sens strict, c'est-à-dire je n'entends pas par là la mode de la philosophie en général, le fait que la philosophie se retrouve dans les médias sous des tas de formes depuis, je ne sais pas... combien de temps maintenant, ça fait un moment, disons une trentaine d'années, peut-être un peu moins. Je pense spécifiquement à l'invocation de la philosophie comme manière de vivre, et en particulier de la philosophie antique, parce que c'est elle, en général, à laquelle on se réfère comme source d'autorité quand on prétend que la philosophie est une manière de vivre. Alors, là, cette idée de la philosophie comme manière de vivre, elle commence à dater. Hein. Les ouvrages de Pierre Hadot, les premiers ouvrages de Pierre Hadot sur le sujet datent, je pense, des années 70. Ensuite, il y a les cours de Foucault des années 80 qui portent, pas exactement là-dessus, j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir, mais enfin, qui traitent un peu de ce genre de questions. Quelqu'un comme Michel Onfray qui a aussi pas mal... défendu cette conception d'une autre manière. Je pense que ses premiers ouvrages datent aussi des années 80. Et alors, depuis peut-être 5 ans, peut-être un peu plus, l'idée est passée dans les médias et dans une littérature moins universitaire, je parle par rapport à Hadot et Foucault, dans une littérature plus de vulgarisation. Et là, je veux dire, c'est absolument impressionnant parce que les choses ont commencé, je sais pas, moi, on a commencé à avoir des livres vraiment de vulgarisation sur la philosophie comme manière de vie peut-être il y a 5 ou 10 ans, mais ça ne s'arrête pas. C'est-à-dire que là, tous les 3 mois, quand vous passez chez votre libraire, vous voyez des nouveaux livres sur la philosophie comme manière de vivre, et ne parlons pas des numéros spéciaux d'hebdomadaires paraissant en fin de semaine, ou d'ailleurs n'importe quand, etc. Ça n'arrête pas. Hein. Il y a des journalistes qui écrivent là-dessus, soit des livres, soit des articles, et les universitaires s'y mettent aussi. Hein. Il y a des universitaires qui écrivent des livres sur la philosophie comme manière de vivre destinés à un grand public, ou... Je suis impressionné par le fait que ça ne s'arrête pas, parce qu'il y a déjà 4 ou 5 ans, je m'étais rendu compte qu'il y avait beaucoup de livres de vulgarisation sur ce sujet. On pourrait penser que le filon allait s'épuiser, mais non, le filon ne s'épuise pas, hein, ça continue. Alors bon, je ne pense pas que l'explication de cette mode, la meilleure explication de cette mode soit philosophique. À mon avis, si vraiment on voulait expliquer, il faudrait sans doute recourir à des analyses sociologiques ou économiques. Pour le dire rapidement, la crise de l'édition en sciences humaines doit jouer quand même un rôle. Le fait que là, on a une espèce de filon qui permet de présenter la philosophie comme quelque chose de, qui va servir pour la vie quotidienne, etc., qui est utile... je pense que ça crée un appel d'air et une demande des éditeurs qui se disent qu'ils doivent pouvoir vendre des livres comme ça. Il doit y avoir sans doute aussi des explications à trouver du côté de l'évolution des mandats et des formes de la psychologie aujourd'hui, hein. Le reflux de la psychanalyse, les nouvelles psychothérapies, etc. On voit bien que l'idée de la philosophie comme manière de vivre entre un peu sur ce marché-là, psychothérapeutique. C'est clair que ça, c'est censé être une offre dans ce genre de qui s'adresse à cette demande de psychothérapie. Et sans doute que pour mieux comprendre cette demande, il faudrait aussi invoquer la diffusion des normes de gestion de soi, hein, qui viennent de tas de sources, mais qui viennent en particulier du management, des nouvelles formes de travail, etc., hein, l'idée qu'il faut se gérer soi-même, gérer sa vie, etc. C'est quelque chose, ce sont des normes qui se diffusent dans la société, qui finissent par créer une demande. Et là, on voit bien, la philosophie comme manière de vie vient répondre un peu à ce genre de demande avec une réponse qui n'est pas la même que celle de d'autres domaines, hein, d'autres disciplines, évidemment. Alors, je ne suis pas équipé pour étudier cette infrastructure qui explique, à mon avis, peut-être pas en dernière instance, mais pas loin, la mode de la philosophie comme manière de vivre. Et je vais donc me contenter un peu de faire mon travail de philosophe et de l'examiner de l'intérieur, la cohérence, disons, de cette mode. Alors, le jeu serait quand même un peu trop facile si je prenais des exemples de sortes de manuels de philosophie comme de vulgarisation de la philosophie comme manière de vie, parce qu'il faut bien reconnaître quand même sans trop jouer les universitaires sourcilleux qu'il y a quand même des choses très très mauvaises qui s'écrivent sur ces qui se publient dans ce genre de domaine. Mais passons, et donc je vais m'adresser à la source sérieuse de l'idée, qui est Pierre Hadot. Quand même, là on a quelqu'un qui indéniablement connaît très bien la philosophie antique, donc je pense que c'est plus intéressant pour nous là de discuter vraiment la thèse elle-même de Hadot, la thèse historique de Hadot sur la philosophie antique, que de s'amuser à critiquer des choses qui ont été écrites, qu'on trouve sous la plume de journalistes ou quoi, ou de gens qui ne connaissent pas très bien l'Antiquité et qui écrivent des choses un peu facilement ridiculisables. Alors, donc, je vais pas... donc, quelques mots sur la thèse de Hadot. Alors... Donc, Hadot, c'est en particulier dans ce livre très connu, « Qu'est-ce que la philosophie antique ?», qui est paru en 1995, Pierre Hadot soutient que la philosophie dans l'Antiquité n'a pas du tout le même sens qu'aujourd'hui, et qu'elle ne se réduit pas à un discours systématique. La philosophie, dit Pierre Hadot, est d'abord une option pour un mode de vie qui détermine, dans un second temps, une doctrine. Et ce choix pour un mode de vie, insiste Hadot, n'est pas un choix solitaire, mais passe par l'intégration dans une communauté, une école philosophique. Hein ? Je ne vais pas vous lire les textes de Pierre Hadot, ça prendrait du temps, hein, j'espère que vous me faites confiance dans la représentation fidèle de ces thèses. Donc je passe, mais enfin, il explique ça bien au début du livre, page 18. Et donc, dit Hadot, le discours philosophique dans la philosophie antique est un moyen et une expression d'un mode de vie, et la philosophie est avant tout une manière de vivre. Alors, Hadot insiste sur le fait qu'il ne cherche pas à opposer le discours et le mode de vie, que les deux sont solidaires, mais enfin, il dit que l'idée n'est pas du tout de relativiser, de marginaliser le discours philosophique, mais enfin, il dit que le discours est un moyen et une expression d'un mode de vie. Et il insiste beaucoup, c'est parlant pour comprendre la différence de conception propre à l'Antiquité, il insiste sur le fait que le terme de philosophe dans l'Antiquité était appliqué à des gens qui n'étaient pas des philosophes professionnels. C'est-à-dire, par exemple, il dit Caton, Caton le jeune ou Caton d'Utique, qui était un homme politique romain, était reconnu comme étant un philosophe, et dit-il comme un exemple, un des rares exemples du sage stoïcien, où Marc Aurèle, de son vivant, dès sa jeunesse, était qualifié de philosophe. Donc c'est censé montrer, puisque Caton et Marc Aurèle n'ont pas écrit d'ouvrages de philosophie au sens strict. Marc Aurèle avait écrit des notes philosophiques qu'on a retrouvées bien après sa mort et sur lesquelles mon livre porte en partie. Mais je veux dire, à l'époque où Marc Aurèle était qualifié de philosophe, personne ne savait qu'il écrivait de la philosophie. Donc, il était qualifié de philosophe non pas parce qu'il était un philosophe professionnel, parce qu'il avait un discours philosophique au sens strict, mais parce qu'il se comportait en philosophe, il avait une certaine manière de vivre caractéristique des philosophes, en l'occurrence stoïciens. Donc cet usage du terme philosophe, dit Pierre Hadot, montre bien que la philosophie avait un sens très différent. Et vous savez que Hadot analyse en particulier, quand il se propose d'analyser cette conception de la philosophie, passe par la notion d'exercice spirituel, qui décrit selon lui un ensemble de pratiques, soit physique, par exemple un régime alimentaire d'un certain type, ou un régime de vie, des pratiques discursives comme la méditation, ou des pratiques intuitives visant à transformer le sujet, justement pour le rendre conforme au mode de vie prescrit par la philosophie. Et dans le livre « Qu'est-ce que la philosophie antique ?», Hadot montre que cette définition de la philosophie s'applique à toute l'Antiquité, donc il passe en revue toute l'histoire de la philosophie antique pour montrer qu'il n'y a pas d'exception à cette conception de la philosophie. Et pour chaque école, pour chaque période, il montre les exercices spirituels typiques de chaque philosophie. Donc, il montre que sa définition de la philosophie, ou plutôt sa caractérisation de la philosophie antique comme manière de vivre, s'applique bien à toute l'Antiquité. Alors, avant de passer à la discussion de cette analyse, je voudrais préciser une chose importante. Quels sont les objectifs de Pierre Hadot dans cette analyse, outre le fait de... quels sont les objectifs, outre le fait de décrire la philosophie antique? Alors, il y a un premier objectif qui est important et qui est sans doute, qui est le premier au sens chronologique, j'ai l'impression, qui a été le premier au sens chronologique pour Hadot. Il y a un objectif de type historique ou méthodologique. Hadot dit souvent qu'il en est venu à s'intéresser aux exercices spirituels et à l'idée de philosophie comme manière de vivre parce qu'il avait des problèmes d'interprétation de certains textes philosophiques et il s'est rendu compte qu'il ne fallait les replacer dans le contexte de cette conception de la philosophie pour les comprendre. Alors ça, je pense que c'est important parce que là, c'est vraiment le point sur lequel l'analyse de Hadot est vraiment utile. On va voir que sur les autres points, je n'ai pas le même avis. Mais Hadot, pour vous dire rapidement, Hadot dit par exemple qu'il y a certains, il dit certains textes de philosophes antiques ne sont pas cohérents, témoignent de contradictions, et donc si on les prend comme des textes, si on les juge du point de vue de notre conception de la philosophie, on va leur reprocher leur incohérence, on va dire c'est un discours philosophique qui ne satisfait pas les critères de la systématicité propre à un discours philosophique. Alors que si on comprend que, en fait, ces textes sont écrits, comme dit souvent Hadot, pour former et pas seulement pour informer, ce qui est amusant, c'est qu'il emprunte cette formule à Goldschmidt, qui n'est pas tellement qui est justement un défenseur de la philosophie comme système, mais bon, Hadot est conscient de l'ironie de la chose. Si on comprend que ces textes sont écrits pas seulement pour informer, mais pour former, que ce sont des textes qui ont une dimension pédagogique, et pas seulement pédagogique au sens de transmettre une doctrine de manière claire, mais que ce sont des textes qui cherchent à former, dit Hadot, un habitus chez leurs lecteurs, ou chez leurs auditeurs, il s'agit de transmettre une manière de vivre, on va comprendre que Ils ne sont pas soumis aux mêmes critères que le discours philosophique aujourd'hui, que des textes philosophiques tels qu'on les connaît depuis, pas seulement aujourd'hui, mais depuis un certain temps. Hein. Et c'est vrai que je pense que là, c'est vraiment intéressant, cette idée de Hadot, replacer les textes dans la conception de la philosophie qui était celle de l'Antiquité pour comprendre les critères qui permettent de les lire. Hein. C'est un peu, on pourrait redire ça dans des termes deleuziens, hein. Il faut comprendre les concepts du point de vue de l'image de la pensée qui est sous-jacente, hein. Et l'image de la pensée vous indique les objectifs les objectifs d'un philosophe, hein, les présupposés du philosophe en termes de à quoi ça sert de penser, qu'est-ce que cette pensée, hein. Et effectivement, hein, si vous lisez certains textes antiques avec une image de la pensée qui n'est pas du tout antique, vous n'allez pas comprendre. Hein. Alors bon, et Hadot soutient que ça s'applique même à Platon ou à Aristote, à des philosophes quand même assez spéculatifs, et c'est pas complètement faux. Pensez par exemple aux interprétations du Parménide en termes d'exercices. Ah, évidemment, ce sont des exercices largement intellectuels, hein, ce n'est pas des exercices au sens, disons, pratique pour vivre d'une meilleure manière, en tout cas pas directement. Mais enfin, si vous jugez le Parménide comme une espèce de discours théorique développant un système, hein, comme visant à informer et pas à former, ça peut poser des problèmes. Alors que c'est vrai qu'on voit bien dans l'Antiquité qu'une des interprétations du Parménide de Platon, aussi théorique et spéculative que soit le texte, c'est en termes d'exercice. Et si c'est un exercice, les critères de lecture et de cohérence exigés du texte ne sont pas du tout les mêmes que si c'est le développement d'une théorie, par exemple. Bon, le Parménide était aussi lu dans l'Antiquité comme le développement d'une théorie. Hein, donc c'est pas, là, il n'y a pas d'argument décisif. Mais enfin, c'était juste pour vous donner un exemple. Je ne sais pas si Pierre Hadot le donne, c'est moi, j'y ai songé comme ça. Hein, bon. Alors ça, c'est le premier objectif de Hadot qui me paraît très intéressant et qu'on oublie parfois parce que le souci de la vogue de la philosophie comme manière de vivre, ce n'est pas tellement un souci herméneutique d'interprétation des textes antiques. Donc voilà. Bon, mais je voulais rappeler cet enjeu parce qu'il est intéressant. Alors, il y a quand même deux autres objectifs qui sont présents chez Hadot également dans le livre Qu'est-ce que la philosophie antique ? Il y a un objectif philosophique, il le dit explicitement, qui est de défendre une conception de la philosophie où le diado, la raison pratique prime sur la raison théorique. Hein, voyez, je vous lis pas le texte, mais page 410, il dit clairement que lui, il a une conception, il a cette conception de la philosophie comme d'abord un certain choix existentiel qui ensuite, hein, donne lieu à un discours, etc., à une doctrine. Mais il parle de la raison pratique prime sur la raison théorique, où il cite un passage de Plotin. Donc en des termes moins qu'anciens, il dit « c'est le désir qui engendre la pensée hein, ». Voilà. Hadot pense que ça, c'est vrai. Hein, et donc, quand en soulignant que l'Antiquité avait cette conception de la philosophie comme manière de vivre, il entend aussi défendre cette conception pour aujourd'hui. Il ne s'agit pas seulement d'une analyse purement historique qui n'aurait pas d'ambition de défendre la conception de la philosophie, disons, comme manière de vivre. Bon. Et puis alors le troisième aspect, évidemment, c'est celui de l'actualité de cette philosophie. Et Hadot se confronte à cette question. Voyez si ça vous intéresse, page 413-415. Il dit, bon, le lecteur va me demander si aujourd'hui on peut encore actualiser cette conception de la philosophie. Il commence par une réponse un peu dilatoire sur le fait que quand même ce serait intéressant de retrouver ce sens du philosophe, etc. On a l'impression qu'il répond pas vraiment. Et puis après, quand même, il donne une description qui est manifestement vécue. Il dit pas « je », mais enfin, on comprend que c'est pas une description comme ça de l'extérieur, d'un exercice spirituel, en gros d'intégration dans le cosmos, de dilution du moi dans le cosmos. Hein. Qu'est-ce que vivre en philosophe ? Bon, là, il explique. Hein, les stoïciens et les épicuriens ont invité leurs disciples à vivre dans la conscience de l'imminence de la mort, à concentrer leur attention sur le moment présent, etc. Celui qui pratique cet exercice de la concentration voit l'univers avec des yeux nouveaux, comme s'il le voyait pour la première et la dernière fois, etc. Hein. Alors, et donc là, il décrit hein, l'expérience qu'on peut faire de l'univers. Après, il cite des auteurs plus contemporains qui redécrivent cette expérience, comme Friedman, etc. Bon, on voit que
même si c'est pas explicite, il y a certains, on voit entre les lignes ou par de petites notations que Ado manifestement a cette pratique des exercices spirituels antiques pour lui-même. Alors il ne l'expose pas, comment dire, publiquement, mais on sent bien qu'il pense que ça peut être mis en pratique aujourd'hui. Alors, ce qui est intéressant et qui me conduit à la discussion des thèses de Ado, ce qui est intéressant, c'est que dans cet exemple, page 415, il cite un exercice, il cite des exercices qui sont communs, selon lui, aux stoïciens et aux épicuriens. Hein, la concentration sur le présent, l'intégration dans le monde. Bon. Et il dit que les stoïciens et les épicuriens les ont recommandés pour des raisons opposées. Donc ça, il le sait. Hein. Mais enfin, ça ne l'empêche pas de penser qu'on peut en quelque sorte dépasser cette opposition entre les stoïciens et les épicuriens et proposer cet exercice à la pratique aujourd'hui. Et il dit, vu de cette manière, la pratique de la philosophie dépasse donc les oppositions des philosophies particulières. Elle est essentiellement un effort pour prendre conscience de nous-mêmes, de notre être au monde, de notre être avec autrui, etc. Référence à Merleau-Ponty. Bon, alors là, vous voyez, c'est très intéressant, et ça me fournit une... peut-être pas un boulevard, mais enfin une voie pour me lancer dans une critique de cette perspective. Ado, finalement, ne voit aucun inconvénient à constituer une sorte de philosophie supérieure qui dépasse les oppositions entre doctrines. Au niveau des les exercices spirituels existeraient en commun, certains exercices spirituels seraient communs aux différentes doctrines et pourraient constituer une philosophie unifiée de type pratique, hein, qu'on pourrait pratiquer aujourd'hui. Alors là, effectivement, ça pose un gros problème, parce que quand même, hein, si Lucrèce ou... je viendrai à Marc Aurèle plus tard, mais imaginez Lucrèce ou un stoïcien, Épictète, à qui on dirait, finalement, se concentrer sur le moment présent ou s'intégrer dans l'univers... C'est commun entre les stoïciens et les épicuriens, tout ça c'est du pareil au même, et l'essentiel dans la philosophie c'est de faire ça, et peu importe les oppositions, je vous laisse imaginer, enfin j'imagine moi, parce que peut-être, je vais vous dire moi comment j'imagine la réponse de Lucrèce ou d'un stoïcien comme Épictète, je pense qu'ils s'arracheraient les cheveux si on leur disait une chose pareille. Alors, ça ne veut pas dire que cette idée est totalement étrangère à l'Antiquité, parce qu'il existe effectivement dans l'Antiquité des auteurs... Comme on peut citer Cicéron dans les Tusculanes ou Sénèque dans le Traité sur la vie heureuse ou dans les Lettres à Lucilius, qui soulignent qu'il existe des points communs dans les pratiques éthiques des différentes doctrines, et en particulier des stoïciens et des épicuriens. Donc Pierre Ado n'est pas le premier, et dès l'Antiquité, on avait remarqué que malgré l'opposition théorique des oppositions théoriques aussi fortes que celles entre stoïciens et épicuriens, il peut exister des conseils pratiques communs. Bon. Seulement, il faut bien voir que cette mise en lumière des points communs pratique par-delà les oppositions théoriques se fait dans un contexte très particulier. Si je prends l'exemple là de Cicéron dans les Tusculanes ou de Sénèque, d'une part, c'est lié à une certaine stratégie philosophique. Chez Cicéron, dans les Tusculanes, c'est lié, bon, je vais vite, mais c'est quand même lié à une position sceptique, qui donc ne prend pas parti entre les différentes doctrines, hein, et les critiques toutes, soit à une position qu'on pourrait dire éclectique, le terme est très dangereux, mais enfin, une position éclectique ou, comment dit-on, syncrétique, bon, là aussi le terme est un peu difficile, mais qui considère qu'il existe des points communs entre des doctrines apparemment opposées, mais y compris au niveau théorique, et que donc, hein, on peut rapprocher des doctrines qui apparemment s'opposent. Donc chez Cicéron, il y a ce contexte-là. Chez Sénèque, il y a un contexte pédagogique très fort. Dans les Lettres à Lucilius, il s'agit de conduire progressivement Lucilius vers la vraie philosophie. Et donc, on lui montre que finalement, même chez Épicure, il y a à la fin des lettres, hein, Sénèque cite des petits propos d'Épicure, des premières lettres. D'ailleurs, il arrête de le faire ensuite, si je ne me trompe pas. Parce que c'est une manière de lui dire, bah, regarde, même chez Épicure, qui est réputé un philosophe en quelque sorte plus attrayant, hein, on a des éléments qui vont dans le même sens que ce que je te dis, même si je ne suis pas épicurien. Donc là, vous voyez déjà, premièrement, il y a une stratégie philosophique derrière cette mise en commun des stoïciens et des épicuriens. Bon. Deuxièmement, c'est limité à certains domaines pratiques. Par exemple, en général, c'est à propos de la maîtrise des passions. Et je pense que l'idée que l'intégration dans le tout de l'univers chez les stoïciens et les épicuriens, ça peut, finalement, ça peut être considéré comme un exercice spirituel commun. Je serais vraiment surpris que Sénèque ou Cicéron cherche à rapprocher les stoïciens et les épicuriens de ce point de vue-là, parce que c'est tellement lié à l'opposition entre la physique stoïcienne et la physique épicurienne, cet exercice-là, que rapprocher en disant du point de vue pratique c'est la même chose, je pense que pour des auteurs antiques, en fait, ça n'a pas de sens de dire une chose pareille, parce que si on dit du point de vue pratique c'est la même chose, ça veut dire qu'on a vidé complètement de leur sens les exercices en les séparant de la physique très, très spéciale à laquelle ils sont liés. Bon. Et puis, ce qui reste, même quand on fait des rapprochements entre les doctrines au niveau pratique, il me semble que dans l'Antiquité, l'idée demeure que les exercices ne sont efficaces et ne prennent véritablement sens que intégrés dans une doctrine systématique. Et donc, cette suggestion qu'on trouve chez Addo de définir les exercices, enfin d'extraire les exercices de leur contexte théorique ou doctrinal, serait refusée par l'Antiquité. J'ai pas dit qu'Addo attribue cette position aux anciens. Hein. Il présente ça comme ce qu'on pourrait faire aujourd'hui pour réactualiser. Toute la question, c'est est-ce que vraiment ça garde quelque chose des exercices spirituels anciens. L'idée n'est pas forcément d'être fidèle, de reproduire exactement, mais dans quelle mesure ça trahit ou ça concerne. Donc, si vous voulez, ça peut conduire, il ne faut pas que je traîne trop, mais ça peut conduire à une autre critique de la perspective d'Addo sur laquelle je passe plus vite, qui est que Addo présente, et là, pour le coup, c'est une critique de l'interprétation historique d'Addo, parce que Addo présente les doctrines antiques comme constituées, enfin, la philosophie dans l'Antiquité comme la succession logique, sinon chronologique, d'un choix de vie fondamental qui est ensuite justifié par un discours théorique. Hein, et il parle de moyen du discours théorique comme un moyen et comme une expression d'un choix de vie fondamental. Et après, quand il présente chacune des doctrines, il va vous présenter chaque doctrine comme, à la base, un choix de vie fondamental, avec ensuite tout un discours qui le défend, etc. Or, alors, peut-être que les choses se passaient comme ça dans l'Antiquité, dans la psychologie de Platon, d'Épictète ou que sais-je, peut-être qu'effectivement, il y a eu un choix de vie fondamental dans leur jeunesse, qui ensuite les a conduits à développer un discours philosophique. Mais si vous regardez ce que les philosophes antiques disent de ce qu'est la philosophie et la manière dont ils présentent ça, ils ne disent jamais une chose pareille. L'idée que, et même quand Plotin dit « le désir détermine la pensée », c'est pas pour dire qu'il y a un désir qui ensuite utilise la pensée comme un moyen. Et alors c'est encore plus vrai chez les autres. L'idée n'est pas du tout celle-là. L'idée, c'est que ça, c'est une représentation existentialiste de la philosophie. C'est intéressant d'ailleurs, parce que je m'en étais pas rendu compte au début, mais ça, c'est une représentation de la philosophie antique qui n'est pas présente dans les premiers livres de Addo. On a critiqué l'usage du terme exercice spirituel parce que c'est pas un terme qu'on trouve dans l'Antiquité, c'est importé de... C'est Saint François de Sales, c'est ça ? J'ai un doute... Bon, c'est importé de la tradition chrétienne, alors on a dit « oui, mais est-ce que ça n'est pas anachronique, etc. ?» Bon, il me semble que quand l'usage de la notion d'exercice spirituel à propos de l'Antiquité chez Addo est très bien contrôlé, il n'y a pas d'anachronisme, il est conscient des problèmes, et là. Mais alors, dans « qu'est-ce que la philosophie antique ?» l'usage de l'idée de choix de vie fondamental est totalement incontrôlé, à mon avis, et donne une représentation existentialiste de... la philosophie qui n'est pas celle des auteurs antiques. Donc qu'on ait pour cette représentation soi-même, pourquoi pas, mais historiquement, ce n'est pas celle des auteurs antiques, parce que les auteurs antiques, pour la plupart, ont... Comment est-ce qu'ils conçoivent... ils ne conçoivent pas le mode de vie philosophique et la doctrine philosophique comme fondée sur un choix de vie, mais comme capable de satisfaire certaines valeurs humaines fondamentales, comme le bonheur ou la vérité. Le discours ne vient pas justifier après coup le choix de vie, il est au contraire essentiel pour montrer que la philosophie est la bonne philosophie, qu'elle est vraie, qu'elle rend heureux, par exemple. Hein. Le stoïcisme ne se présente jamais comme un discours qui dépendrait d'un choix de vie. Il se présente comme la doctrine qui est issue de la nature. Si vous regardez la nature humaine, si vous regardez la nature du monde, c'est ça la vérité. C'est comme ça que vous devez vivre. Hein. Et c'est pareil dans l'épicurisme, et c'est pareil chez la plupart des philosophes antiques, il n'est jamais question de, en quelque sorte, faire dépendre la doctrine d'un choix de vie préalable. Au contraire, la doctrine vient montrer que le choix de vie que vous devez faire, si vous êtes cohérent, si vous regardez comment les choses sont autour de vous, dans votre propre âme, etc., c'est ce choix de vie-là. Hein. Voilà. Hein. Donc, si vous voulez, on pourrait dire, hein, pour aller vite, il y a une sorte d'intellectualisme de la philosophie antique, hein, même chez les auteurs les moins intellectualistes comme Aristote, par exemple. Il y a un intellectualisme dans la philosophie antique qui, à mon avis, est totalement étranger à la perspective existentialiste qu'utilise Adot pour représenter les choses. Alors, on pourrait débattre, hein, je répète, on peut prétendre que, en fait, la description existentielle est celle qui est objective et que, sans s'en rendre compte, les philosophes antiques faisaient un choix de vie, puis à développer un discours philosophique. Mais en tout cas, eux-mêmes, ce n'est pas comme ça qu'ils se représentaient la philosophie, bon, à mon avis. Alors, et si vous voulez, je pense que les deux remarques que j'ai faites, les deux critiques que j'ai faites sont liées. C'est-à-dire que c'est parce qu'on a la représentation existentialiste avec le choix de vie qui précède le discours que l'on peut relativiser finalement l'opposition théorique des doctrines et dire on peut constituer des exercices spirituels indépendamment des oppositions théoriques, et on peut, si vous voulez, l'éclectisme de l'idée de philosophie comme manière de vivre aujourd'hui. C'est-à-dire, on a une espèce de menu d'exercices spirituels qu'on va pouvoir chacun bricoler à notre manière pour notre vie. C'est pas comme ça, qui n'est pas comme ça chez Pierre Hadot, mais enfin, qui est nettement rendu possible par ce que dit Pierre Hadot, et je veux dire, dans le passage que j'ai cité tout à l'heure, il admet clairement l'idée qu'on peut définir les exercices spirituels débarrassés de leur contexte théorique. Donc cette espèce d'éclectisme est liée à l'existentialisme, hein, de la représentation de la philosophie comme déterminée par un choix de vie. Hein. Et ça conduit à une minimisation des polémiques, hein, entre philosophes antiques. On insiste sur ce qui est commun. Hein, on insiste sur, bon, ils cherchent tous à maîtriser leur passion, etc. Hein, c'est intéressant, même chez ceux, d'ailleurs, je pense que c'est quelque chose de très profondément ancré dans l'idée de philosophie comme manière de vivre aujourd'hui et qui la distingue nettement de ce qu'on avait dans l'Antiquité, parce que même chez des auteurs comme Onfray, qui n'ont pas du tout la même perspective que Hadot, qui lient la défense de la philosophie comme manière de vivre également à une position théorique, matérialiste, hédoniste, etc. Même chez Onfray, qui a une attitude agressive et polémique à l'égard des platoniciens, des chrétiens et de tout ce qui n'est pas matérialiste ou hédoniste, même chez un auteur comme ça, en fait, quand vous regardez comment il décrit quand il décrit les philosophes antiques qu'il enrôle dans le camp qui est le sien, il reconstitue une espèce de syncrétisme. Hein, si vous regardez dans sa contre-histoire de la philosophie, là, le volume sur l'Antiquité, alors il reconstitue une espèce de camp, hein, des opposants au platonisme, à tous les spiritualistes, etc., métaphysiciens et tout ce que vous voulez, horrible, horrible. Mais alors, par exemple, il met dans le même camp les épicuriens et les cyniques. Mais si vous regardez historiquement, hein, d'abord les cyniques n'étaient pas vraiment des hédonistes, contrairement à ce qu'il dit. Bon, ça c'est des débats, disons, un peu à la limite historiques, compliqués. Mais en tout cas, les épicuriens détestaient les cyniques. Hein. Donc faire un seul camp comme ça pour essayer là aussi, on retrouve une forme de syncrétisme, même si c'est à un niveau plus fin, parce que comme Onfray est dans une entreprise de polémique à l'égard de courants dominants, selon lui, de la philosophie, bon, il a la polémique, mais il ne peut pas s'empêcher quand même de retrouver un peu d'éclectisme en dessous. Bon, je passe, c'est pas très important. Donc, vous voyez, je pense que si on veut garder l'idée de philosophie comme manière de vivre à l'antique, On peut ne pas vouloir la... Mais si on veut garder l'autorité, en quelque sorte, des anciens là-dessus, on peut difficilement la réduire, séparer d'une manière un peu, existentialiste la doctrine théorique de la pratique. Les deux sont étroitement liés dans l'Antiquité. Et je pense que, pour revenir à Épictète et Marc Aurèle, dont je suis parti, je pense que c'est sans doute une des raisons pour lesquelles ils ne sont pas très en vogue dans la philosophie comme manière de vie, parce que justement, chez eux, et en particulier chez Épictète, il n'y a pas du tout d'éclectisme. Épictète ne cherche pas, malgré son intérêt très fort pour la pratique, qui devrait le rendre séduisant pour nous aujourd'hui si on souscrit à la philosophie comme manière de vivre, eh bien, Épictète ne cherche pas du tout les points communs pratiques entre les différentes doctrines et ne relativise pas du tout la divergence théorique, comme le fait parfois Sénèque. Il arrive à Marc Aurèle d'adopter ce point de vue, mais c'est beaucoup moins fréquent qu'on ne le pense. C'est vrai que bon, il y a tout un débat sur Marc Aurèle parce que il y a un fameux, il y a un certain nombre de textes chez Marc Aurèle, dans lequel Marc Aurèle dit que le monde soit régi par la providence ou qu'il soit fait d'atomes, nous devons quand même adopter une attitude de sérénité, etc. Je synthétise, mais vous avez un grand nombre de textes de Marc Aurèle de ce type. Vous avez une alternative entre, en gros, épicurisme et stoïcisme au niveau de la physique. Et puis il dit, mais quand même, on doit adopter une attitude. Alors certains ont pensé que c'était une forme, effectivement, de syncrétisme. Et en particulier, Renan a analysé, Renan était émerveillé, a écrit un livre sur Marc Aurèle, et était émerveillé par ces textes, parce qu'il est dit, il disait, Marc Aurèle a réussi à rendre le stoïcisme indépendant de sa physique. C'est-à-dire, il a réussi, il a laïcisé le stoïcisme, en quelque sorte. On peut être stoïcien sans souscrire à la théologie stoïcienne avec, vous voyez, le Dieu qui régit le monde, la providence, etc. Puisque Marc Aurèle dirait, finalement, ça marche aussi si on est épicurien. Mais en fait, quand vous regardez vraiment ce que dit Marc Aurèle, c'est pas du tout une relativisation de la physique stoïcienne, ce qu'il fait. C'est au contraire, c'est une sorte de consequentia mirabilis, c'est de dire... Que vous preniez, vous savez, c'est l'argument qui consiste à dire A implique B, non A implique B. Donc B est vrai, puisque que vous partiez d'une prémisse ou de son contraire, vous aboutissez toujours à B. Mais ça ne veut pas dire que A et non A sont sur le même plan. En fait, ce qui est vrai, c'est A, c'est-à-dire, c'est clair pour Marc Aurèle, ce qui est vrai, c'est la physique stoïcienne et la théologie stoïcienne. Seulement, si vous voulez, même si, c'est une sorte de... Bon, même si je j'adopte ta physique... De toute façon, j'arriverai quand même à une attitude de sérénité. Donc l'attitude de sérénité est... voilà. Donc si vous voulez, même chez Marc Aurèle, qui peut paraître parfois un peu plus éclectique que Épictète, en fait, il est sur le même genre de position qu'on pourrait dire Marc Aurèle et Épictète, si vous voulez, quand ils appliquent le stoïcisme, ils l'appliquent dans toute sa rigueur, ils ne cherchent pas à fournir une version praticable du stoïcisme, une version... ils cherchent, au contraire, à hausser la pratique au niveau de la théorie. Et donc, ça rend leur stoïcisme assez peu actuel, parce qu'ils maintiennent entièrement les exigences d'impassibilité, caractéristiques du premier stoïcisme, et ses fondements axiologiques. Rien n'est bon sauf la vertu, rien n'est mauvais sauf le vice. Et donc, il n'y a pas du tout... il ne laisse pas du tout ouverte une sorte de voie syncrétique où on pourrait détacher les exercices de leur présupposé théorique, physique, logique, au contraire. Ce qui est intéressant, justement, c'est qu'ils fournissent des exercices physiques, logiques, étroitement liés à la doctrine stoïcienne. Et puis, je voudrais terminer sur un autre aspect. Une autre raison plus substantielle qui rend Épictète et Marc Aurèle réfractaires à la conception actuelle de la philosophie comme manière de vivre, c'est leur critique de l'usage public de la philosophie. C'est un point qui est peut-être pas trop connu, donc je vous en parle, j'espère que ce n'est pas une banalité pour vous. Ce point avait déjà bien été vu par Shaftesbury, comme l'a montré Laurent Jaffraud dans certains articles. Laurent Jaffraud a édité les exercices de Shaftesbury, édité et traduit les exercices de Shaftesbury. L'intensité et la pratique du stoïcisme impérial par Shaftesbury n'a d'égal que sa discrétion. Les exercices de Shaftesbury n'étaient pas destinés à être publiés, non pas seulement parce qu'il constituait un travail personnel sur soi visant à rendre possible d'autres activités, en particulier d'autres écrits publiés par Shaftesbury, mais aussi parce que le stoïcisme était pour Shaftesbury une doctrine ou du moins un discours qui ne convenait plus à son époque. Je vous cite un passage. « Que d'autres parlent en termes pompeux de la vertu et non toi ?» C'est assez si tu joues ton rôle dans le calme et le silence, en gardant pour toi-même tes règles et tes principes, et sans jamais l'espoir de les faire comprendre à d'autres. Que feraient eux-mêmes Socrate et Épictète s'ils vivaient aujourd'hui ? Tu es convaincu qu'ils joueraient eux-mêmes un rôle différent, conformément à la différence des époques. Ce passage est très intéressant parce qu'il met à distance le stoïcisme, ou plutôt le discours stoïcien sur la vertu, au nom du stoïcisme lui-même, hein ? Épictète lui-même, s'il vivait aujourd'hui, ne ferait pas des grands discours sur la vertu. Et donc, Épictète reconnaîtrait la différence des époques comme un critère légitime. Il y a donc une nécessaire adaptation à l'époque qui n'empêche pas de demeurer stoïcien. Or, cette adaptation est paradoxalement déjà pratiquée par Épictète lui-même, il me semble. Il engage ses disciples à ne pas se déclarer philosophe. C'est quelque chose... Je ne sais pas si c'est connu chez Épictète, mais je crois que c'est pas pris. On n'insiste pas suffisamment là-dessus. Je vous lis un passage, comme ça vous aurez au moins entendu la voix d'Épictète une fois ce soir. Comme ça, ce serait dommage. Donc je vous lis le chapitre 46 du manuel. Nulle part ne te dis toi-même philosophe et ne discute pas constamment des thèses philosophiques devant des profanes, mais fais ce qui suit des thèses. Ainsi, dans un banquet, ne dis pas comment il faut manger, mais mange comme il faut. Rappelle-toi en effet, Socrate avait si complètement supprimé la montre que l'on venait à lui quand on voulait être introduit auprès de philosophes et lui-même faisait des présentations. Et vous voyez donc la référence à Socrate comme philosophe en quelque sorte pas prétentieux, discret et ne se mettant pas en avant est déjà chez Épictète. En fait, quand Shaftesbury dit Épictète et Socrate, bon, déjà Épictète dit Socrate. Et alors, vous voyez, quand je continue pour vous montrer que c'est pas un conseil... tant il supportait Socrate qu'on ne le remarqua pas. Et si parmi des profanes, la conversation tombe sur quelques thèses philosophiques, garde le plus souvent le silence. Le risque est grand, en effet, de rejeter sur l'heure ce que tu n'as pas digéré. Donc, vous voyez, Épictète dit, si tu es à un dîner en ville et que les gens commencent à parler philo, tu es celui qui ne doit pas participer à la conversation. Tu dois ne pas. Bon. Donc, tu ne dois jamais, enfin, jamais, non pas jamais, mais tu ne dois pas faire le philosophe. Bon. Alors, je pense que ce n'est pas du tout... je pense que cette affaire n'est pas contingente, n'est pas marginale dans le stoïcisme d'Épictète. On pourrait dire que d'une certaine manière, Marc Aurèle a gardé la leçon parce qu'il était connu comme philosophe dès sa jeunesse. Peut-être qu'il n'avait pas encore bien compris la leçon dans sa jeunesse. Mais en tout cas, par exemple, les notes philosophiques que Marc Aurèle a écrites au long de sa vie, il n'a pas cherché à les publier. D'ailleurs, on a mis la main dessus que bien après sa mort, etc. Donc là, au moins pour ses notes, bon, il n'a pas ambitionné de les publier, etc. Et même s'il passait déjà pour un philosophe. Bon. Alors, pourquoi cette méfiance d'Épictète à l'égard de tout engagement public, philosophique public ? Il ne s'agit pas seulement de modestie ou d'humilité du progressant. Épictète est confronté à une situation où la philosophie, et en particulier le stoïcisme, sous sa forme austère ou logicienne, est prisée des élites et presque devenue une mode, suscitant des idées simplistes sur ce que signifie être stoïcien. Épictète ne cesse de se battre contre ses idées simplistes, ses représentations simplistes du philosophe. Le philosophe, c'est celui qui maîtrise la logique. Le philosophe, c'est celui qui a un bâton et une barbe et un manteau. Le philosophe, c'est celui qui est allé à l'école, qui a une culture, qui a lu des livres de philo. Et donc, Épictète retourne les méthodes d'enseignement de Socrate et de Diogène, la réfutation et la dénonciation agressive, contre ceux qui se croient philosophes, plus encore que contre ceux qui ignorent ou méprisent la philosophie. Comme dans la République de Platon, la philosophie doit moins sa mauvaise réputation aux ignorants qu'à ceux qui la convoitent. Épictète doit donc montrer que le passage par une école, l'érudition, l'habileté logique, le manteau et la barbe, ou un mode de vie scandaleux, ne définissent en rien le philosophe, et c'est pourquoi il insiste sur le fait que le vrai philosophe ne se déclare pas comme tel. C'est pas conjoncturel, je pense, cette affaire. D'autre part, c'est une autre raison pour laquelle c'est pas conjoncturel, c'est que, à mon avis, c'est une expression pédagogique d'une idée qui est importante dans le stoïcisme, que je n'ai pas le temps de développer là maintenant, mais qui était importante dès le premier stoïcisme, et qui est l'idée, pour le dire vite, de l'invisibilité du sage. Si vous voulez, le sage stoïcien, là je ne parle pas d'Épictète, je parle dès le premier stoïcisme, le sage stoïcien est tel, pour un certain nombre de raisons, dont le fait qu'il s'intègre à l'ensemble, à l'administration du monde, en quelque sorte, que d'une certaine manière, il est invisible. Hein, on ne peut pas identifier, sauf si on est soi-même sage, on ne peut pas. Il n'y a pas un comportement spécifique qui signale le sage. C'est pas parce que vous mangez très peu que vous êtes sage. Hein. Il n'y a pas un comportement typique du sage. Hein, parce que comme le sage s'adapte aux circonstances, etc. On peut trouver des sages qui font toutes les actions, en fait, dans certaines circonstances, peuvent être faites par le sage. Donc, il y a une forme d'invisibilité du sage. Je pense que ça, c'est aussi l'arrière-fond théorique qui permet de comprendre cette idée de « ne fais pas le philosophe, ne te dis pas toi-même philosophe », c'est une idée centrale dans la conception qu'Épictète se fait de la philosophie. Et l'une des principales critiques d'Épictète contre les faux philosophes, justement, hein, puisque c'est là-dessus que je viens d'insister, c'est la dissolution du stoïcisme dans une culture philosophique éclectique. Je vous cite un autre passage des entretiens. « Mais montrez-moi un stoïcien si vous en avez un. Où cela et comment ? Oui, vous pouvez m'en montrer des milliers qui récitent les sentences stoïciennes. Mais ces mêmes individus récitent-ils moins bien les sentences épicuriennes ? Et les sentences péripatéticiennes ne les expliquent-ils pas aussi exactement ?» Hein ? Ce texte m'a toujours fait penser au texte que vous trouvez de Nietzsche dans les Considérations intempestives, hein, où il dit « quand je vois des gens qui s'intéressent à l'histoire, hein, et j'ai toujours envie de leur demander... Attendez, je l'ai le texte là, plutôt que de le dire mal, autant le lire clairement. Hein, si l'un d'entre eux s'occupe de Démocrite, j'ai toujours envie de demander pourquoi pas Héraclite ou Philon ou Bacon ou Descartes et ainsi de suite à volonté. Et puis pourquoi justement un philosophe, pourquoi pas un poète, un orateur et pourquoi un grec, pourquoi pas un anglais, un turc. Hein, c'est dans Considération inactuelle 2.5 de Nietzsche. Et d'ailleurs, le parallèle va plus loin que ce que j'ai dit, parce que Épictète dit aussi la même chose que Nietzsche après. Et pourquoi un philosophe ? Il dit, mais si on s'intéresse aux sentences, après tout, pourquoi des philosophes et pourquoi pas Homère ? Hein ? Puisque tant que si on est dans un rapport littéraire, textuel, bon, finalement, ça ne change rien de passer de la philosophie à la littérature. Là, il y a une proximité entre Nietzsche et Épictète. Ça peut surprendre certains que je dise ça, mais j'avoue que j'ai toujours... J'ai toujours été saisi par cette proximité. Je pense qu'il y a une forme de franchise, de brutalité du discours philosophique chez Épictète qui fait un peu penser à ce qu'on trouve chez Nietzsche. Hein. Vous savez, Deleuze disait qu'on ne pouvait pas lire Nietzsche comme n'importe quel auteur. C'est un auteur qui vous prend, qu'on ne peut pas manipuler comme ça, sur lequel on ne peut pas faire des commentaires historiques, etc. Il y a un peu de ça avec Épictète. C'est-à-dire, on ne peut pas vraiment écrire sur Épictète comme sur n'importe quel auteur parce qu'il a une manière de vous renvoyer le fait que la philosophie, c'est pas de faire de l'exégèse. Hein. Alors, donc, je reviens à mon propos et je conclue, parce que je pense que là, j'ai suffisamment parlé. Du fait de son éclectisme, la mode de la philosophie comme manière de vivre produit un effet identique à la mode philosophique à laquelle est confronté Épictète, hein, c'est-à-dire, finalement, on met dans un même sac hein, les sentences épicuriennes, les sentences stoïciennes, les sentences péripatéticiennes. Hein, on fait des beaux tableaux comme ça, avec des petits portraits, des petits bustes de chaque philosophe dont on résume les différents exercices. Et puis on dit, bah, allez-y maintenant, combinez, faites votre patchwork. Ouais, voilà. Et donc, alors même que cette mode se réclame d'une conception de la philosophie comme pratique qui semble proche d'Épictète, elle est, hein, en un sens, aux antipodes. Hein. Peu importe votre doctrine philosophique, semble-t-on dire aujourd'hui, du moment que vous vous en trouvez une, ou que vous vous en bricolez une et la mettez en exergue de votre vie quotidienne. Si vous voulez, il y a l'idée, l'éclectisme et l'affichage. Hein. Il faut prendre la philosophie comme une sorte de figure de proue, hein, mettre sa vie sous le signe de la philosophie et se bricoler quelque chose avec les philosophes antiques, alors que... pour Épictète, le vrai philosophe, c'est aussi celui qui la met en pratique, mais Hein, c'est celui qui met en pratique la philosophie dans sa vie quotidienne, mais d'une part, il doit mettre en pratique la vraie philosophie, à savoir le stoïcisme. Si vous mettez en pratique les sentences épicuriennes, hein, vous ne serez pas un philosophe. Et d'autre part, pour Épictète, le philosophe doit se concentrer sur la pratique au point d'abandonner toute prétention publique au statut de philosophe, ce qui, là encore, va contre... Hein, cette mode de la philosophie comme manière de vivre, comme affichage d'une manière de vivre. Voilà, je termine là-dessus, c'est des considérations un peu négatives. J'avais des propos un peu plus positifs autour de Foucault, mais ce n'est pas la peine d'occuper toute la
Peut-être
soirée.
Peut-être pourra-t-on y revenir dans les questions. Merci beaucoup Thomas pour cette magnifique conférence. Je crois qu'on a parcouru un grand champ du savoir grâce à toi toutes les références que tu as convoquées. Alors peut-être avant d'ouvrir le débat, j'aurais envie de te poser une première question pour un peu lancer justement le dialogue. Une question qui concernerait justement les usages, puisque tu as aussi beaucoup travaillé sur la notion d'usage, les usages du stoïcisme à travers l'histoire de la philosophie. Tu t'es concentré d'une part sur l'Antiquité, sur la source, et d'autre part, en un sens, sur la situation contemporaine et sur ce que tu as appelé la mode. Mais entre la source et la mode, il y a toute une trajectoire et un certain nombre de trajectoires qui se sont opérées. Et j'avais envie de réinterroger ces trajectoires et notamment le concept que tu utilises beaucoup, donc de manière de vivre. Est-ce qu'il n'y a pas, disons, d'autres façons de décliner l'idée de manière de vivre à partir du stoïcisme ? Alors, j'en donnerai juste deux exemples, disons un exemple qui serait plutôt éthique et un exemple qui serait plutôt politique. Alors, un exemple éthique qui serait, disons, autour de l'idée selon laquelle philosopher, c'est d'abord et avant tout soit apprendre à mourir, soit apprendre à vivre. Hein ? Donc la philosophie comme art de vivre, que l'on peut interpréter soit comme le fait d'apprendre à mourir, soit au contraire, et ça a été autant fait dans la critique de la première perspective, comme art de jouir. Alors, l'exemple le plus classique, évidemment, c'est Montaigne. Montaigne qui, à la fois, dit que la philosophie, c'est apprendre à mourir, et en même temps qu'en réalité, la vraie philosophie doit surtout apprendre à jouir, hein, selon, effectivement, les périodes de son existence propre. Donc, il y a cette première voie éthique qui est une façon de réinvestir aussi le stoïcisme dans cet art de jouir. L'autre versant, et on pourrait la trouver aussi chez Rousseau. Alors l'autre versant, c'est le versant politique, et c'est l'aspect bien connu, hein, évidemment, du citoyen du monde. Et ça m'intéresse d'autant plus qu'au XVIIIe siècle, quand on disait le philosophe, hein, souvent on pensait au cosmopolite. Hein, et le cosmopolite est bien sûr en particulier inspiré alors d'une figure sans doute partiellement déformée hein, du stoïcisme. Et par exemple, lorsque Rousseau critique ses cosmopolites, hein, il pense notamment à Diderot, etc., il a bien en vue cette figure du citoyen du monde. Donc il y a là deux figures de la philosophie par excellence, hein, en quelque sorte, qui sont inspirées du stoïcisme, alors de manière sans doute déformée, distendue, etc., qui correspondent à deux manières de vivre. Et je pourrais aussi citer Montesquieu, qui, lorsqu'il parle des stoïciens, en fait l'incarnation de la sociabilité. Hein, le philosophe de la sociabilité, hein, comme figure de la sociabilité, il dit « né pour la société, il pensait qu'il n'y avait de félicité qu'en voulant vivre pour elle ». Donc voilà, est-ce qu'il n'y a pas d'autres manières de penser ces manières de vivre issues du stoïcisme ?
Si, effectivement. Sur la première, je ne sais pas, la première, apprendre à mourir, apprendre à vivre, je ne sais pas si c'est une manière très différente. C'est-à-dire, là, cette tradition de la philosophie comme apprendre à mourir, issue du Phédon, et ensuite qu'on retrouve chez Sénèque, ou apprendre à vivre, là, c'est en gros hein, la conception qui est défendue aujourd'hui par Pierre Hadot et par d'autres moins subtils. Là, pour le coup, on est bien dans cette tradition et Montaigne est assez parmi les auteurs justement non antiques qui sont invoqués dans la défense de cette tradition. Montaigne est central. Donc je ne sais pas si là c'est vraiment différent. Par contre, tu as raison. Merci d'insister sur cet aspect politique. Je pense que c'est très important. Pour plusieurs raisons, là j'en ai pas parlé, mais c'est très important effectivement d'en parler pour deux raisons. D'abord, par rapport à ce dont je parlais tout à l'heure, justement, sur le problème fondamental de la conception contemporaine de la philosophie comme manière de vivre inspirée de l'Antiquité, le problème fondamental, c'est son éclectisme. Alors justement, ce qui est intéressant avec... et quand on dit, bon, quand Ado dit, les différentes philosophies dans l'Antiquité se distinguaient par leur manière de vivre. Ça, quand même, c'est assez difficile à prouver. C'est-à-dire que si vous regardez effectivement les modes de vie des différents philosophes, des différentes écoles philosophiques dans l'Antiquité, c'est quand même assez difficile de trouver des critères pratiques qui opposent les différents philosophes. Sauf dans le domaine politique. Et c'est juste, c'est plutôt ce domaine que Ado, en fait, ne traite pas tellement, auquel il ne s'intéresse pas tellement. Je ne dis pas qu'il ne le connaît pas, hein, mais il ne s'intéresse pas tellement à ça. Si on regarde ce qui opposait, du point de vue pratique, les philosophes dans les différentes écoles philosophiques dans l'Antiquité, ce n'est pas tellement des manières éthiques de vivre. Je veux dire, ils étaient tous pour la tempérance. À part, oui, d'accord, il y a les cyniques, hein, qui étaient un peu, qui avaient des pratiques qui étaient condamnées par les autres. Mais à part cette grosse divergence-là, c'est bien connu qu'Épicure se nourrissait de fromage de chèvre, d'olive et d'un verre d'eau et qu'il était pas, qu'il faisait pas bonbons tous les jours. Donc en fait, en termes pratiques, la différence entre le jardin et le stoïcisme n'était pas si forte que ça. Hein. Par contre, là où il y a des oppositions pratiques entre les philosophes d'Antiquité, c'est par exemple sur le rapport à la politique. Hein. Est-ce qu'il faut participer aux affaires publiques? Est-ce que effectivement on est plutôt cosmopolite ou est-ce qu'on est plutôt où on reconnaît pas qu'il y a un ordre politique supérieur aux ordres des cités? Est-ce qu'au contraire on se retire de la vie politique? Donc ça c'est une première raison pour laquelle je pense que tu as raison d'insister sur cette tradition. Et effectivement là il y a une spécificité je pense que si on veut vraiment insister sur la philosophie comme manière de vivre sans tomber dans l'éclectisme, la voie politique est une bonne idée, parce que là, on a justement des divergences pratiques qui sont liées aux divergences théoriques, effectivement. Et là, on peut avoir une caractérisation du stoïcisme qui, effectivement, défendait la participation politique, mais d'une certaine manière liée à une doctrine cosmopolitique. Et c'est quelque chose qui est intéressant chez les stoïciens impériaux, chez Épictète, évidemment, chez Marc Aurèle, bon, qui était empereur. Donc, il utilise beaucoup cet aspect du stoïcisme, il insiste beaucoup là-dessus. Et chez le troisième, Laron, qui est en fait le premier chronologiquement et dont je n'ai pas parlé, qui est Musonius, qui est très peu connu, enfin à Bordeaux il est célèbre, mais dans le reste du monde pas tellement. Musonius Rufus, qui est le maître d'Épictète et qui a une conception de la philosophie effectivement comme pratique qui est proche de celle d'Épictète et Marc Aurèle, mais qui pour le coup insiste beaucoup sur l'aspect politique. Que ce soit alors et l'aspect social, on pourrait dire, du stoïcisme, plus encore que Marc Aurèle, en un sens. Et là, effectivement, c'est un point important. Et effectivement, après, il y a toute une tradition là-dessus qui est intéressante aussi.